Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bienvenue à toutes et à tous dans ce programme de Radio Okapi qui vous présente son magazine Bana Okapi. Ce magazine de jeunes et plus jeunes aborde des sujets sur l'éducation, l'entrepreneuriat, la santé, l'environnement et la protection de l'enfant. Aujourd'hui, nous nous focalisons sur la rentrée scolaire 2024-2025 programmée pour ce lundi 2 septembre. En effet, le gouvernement rassure sur une rentrée scolaire apaisée grâce à un compromis avec les banques syndicales de l'éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Pourtant, plusieurs syndicats d'enseignants menacent de boycotter cette rentrée si le gouvernement ne concrétise pas ses promesses avant la reprise des cours. Qu'attendent les enseignants du gouvernement pour cette nouvelle année scolaire? Des réponses dans votre magazine. Je suis Sarah Soumbela. À la présentation de ce numéro du magazine Bana Okapi, Pierre Diassinois sur la mise en onde, Gisèle Cage réalise ce programme de Radio Okapi financé par l'UNICEF. Plamedimbia Vanga, Grâce Mvuzolo, Rachel Kisembangu, Ezekiel Muzalia, André Kitenge, Grévis Salumu, Guylaine Kassassia et Stanislas Diumi coproduisent ce magazine supervisé par Jean-Marc Matwaki Mofelili Dijano.
Le 2 septembre, c'est la rentrée scolaire. L'école primaire publique est gratuite. Enfants, filles et garçons, tous à l'école. Pour plus d'infos, envoyez rentrée au 101.
Ceci est un message du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté en partenariat avec l'UNICEF.
L'enseignement est un métier noble en République démocratique du Congo, mais très mal rémunéré. Avec son salaire, l'enseignant n'arrive pas à nouer les deux bouts du mois. Être enseignant au Congo est le synonyme de la pauvreté. Quand bien même qu'il est l'acteur principal de la formation, mais en retour, ce dernier vit dans la misère. Nous avons voulu savoir comment un enseignant arrivait à vivre avec son maigre salaire. Alors notre reporter Grâce Mvuzolo est allé à la rencontre d'un enseignant de longue carrière dans la partie est de la ville de Kinshasa. Découvrez le tout dans ce reportage.
C'est toujours préféré ce qui est assez qu'on préférait qui fut. La sensibilité au vrai, disait Bourvic, est le produit le plus précieux et le plus rare de la civilisation occidentale. Où se formerait-elle et s'affirmerait-elle cette sensibilité, sinon à l'école de la science?
Nous sommes dans une salle de classe au complexe scolaire Elikia où enseigne Jean-Louis Essokola, enseignant de l'école primaire depuis 1990. Résident sur l'avenue Yongo numéro 2 au quartier 3 dans la commune d'Enjili, dans la banlieue de la ville de Kinshasa. Père de trois enfants, dont deux filles et un garçon. Jean-Louis est toujours locataire. Avec sa famille, ils occupent une maison d'une chambre et un salon. Dans les salons, pas de chaises pour recevoir ses visiteurs. À notre arrivée, c'est auprès de ses voisins qu'il est allé emprunter quelques chaises en plastique. Malgré ses 34 ans d'expérience, Jean-Louis et Sokola a du mal à nouer les deux bouts de mois.
J'ai totalisé plus de 34 ans. Là, en 2025, j'aurai 35 ans d'enseignement et j'ai plus de 60 ans. J'ai trois enfants, un garçon et deux filles. Vraiment, c'est malheureux. Je, parfois, le larme aux yeux, c'est peut-être honte à dévoiler mon salaire dans des places publiques. Je vous l'ai dit, depuis que j'ai commencé dans l'enseignement, mon salaire aujourd'hui, c'est 180 $. Je n'ai jamais gagné un salaire de 200. Et voilà, avec trois enfants, vraiment, c'est qui honte. Alors que j'ai à former des gens qui sont des médecins, de prêtres et tout ça.
Alors comment faites-vous finalement pour survivre avec ces maigres salaires?
Qu'est-ce que je fais? Dans un premier temps, j'ai loué une maison de 70 $, vous savez, hein, et je remets une somme d'argent à mon épouse. Vous êtes là, mais elle n'est pas là, elle est au marché pour survivre. Lorsque je remets, le reste est là. Nous avons du mal parfois à survivre, mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut aussi des escamoros, hein. Et aussi, comme nous sommes nés africains, vous savez que la civilisation africaine, elle est communautariste, hein. Il y a certains frères en Europe qui, de manière spontanée, vous envoie un petit montant, peut-être pour renforcer le petit commerce de la femme. Parfois, quand vous avez de sérieux problèmes d'enfants malades, il y a certains frères, vous appelez en Europe, il y a un frère, un cousin peut vous aider, on vous envoie une somme de 50 ou 100 dollars. Vraiment, c'est ça. Vous, en faisant le perceptorat, certains parents si méchants vous font marcher, vous avez enseigné, mais on vous donne rien. Parfois, il faudrait de certains gymnastiques pour récupérer ça. Vraiment, c'est difficile.
Alors, comment faites-vous pour scolariser les enfants?
Il y a déjà mon premier fils, hein, lui, il a terminé, il a aujourd'hui 34 ans, parce que quand j'ai commencé, j'avais déjà un enfant, lui, il a déjà 34 ans, il vit quelque part, il se débrouille pas à cet âge, on suppose qu'on est déjà majeur, et bien que nous soyons africains, vous allez trouver des enfants âgés de 40 ans vivre dans le toit familial, maintenant il est ailleurs. La deuxième, c'est elle d'ailleurs qui m'a donné ce petit-fils qui est derrière vous, mais la toute dernière, elle vient de décrocher son diplôme dans une école où j'enseignais. On vous a accordé certains avantages liés à votre profession. Elle vient de décrocher son diplôme cette année. Vraiment, je vous dis, sans mâcher le mot, j'ai de mal à faire à ce que mes enfants puissent poursuivre les études universitaires. Je ferai un effort, je vais me battre bec anglais, bien que ma carrière va finissante, mais s'il est de personnes de bonne volonté qui puissent m'aider, j'aurai à me battre bec anglais pour qu'elle aille à l'université.
Aimeriez-vous que votre fille devienne une enseignante comme vous?
Bon, ici, je vous voudrais pas être pseudo-scientifique, hein, c'est-à-dire aller en marge de tout ce que le monde conçoit. Et le métier, on ne choisit pas un métier pour son enfant, hein, même les études. S'il veut bien faire l'enseignement, c'est bien beau, parce que c'est un métier noble. C'est pas parce que moi, je dis, je n'ai rien gagné dans l'enseignement. Il peut le faire, mais personnellement, moi, par rapport aux humiliations reçues de l'enseignement, en tout cas, j'ai dit, je ne souhaiterais pas que mon fils ou ma fille puisse devenir enseignant, parce que, vous savez, avec cette vie de locataire, on n'a pas une parcelle. Je ne souhaiterais pas que l'un de mes résidents devienne enseignant.
Pourquoi vous êtes accroché à un travail qui ne vous paye pas bien?
Vaut mieux peu que rien. Là où on trouve un petit rien, on s'y accroche pour ne pas être trop pratiqué cette politique de la main tendue. Vous êtes parents, vous êtes. Vaut mieux un petit rien pour survivre, pour essayer d'encadrer ou de lever ses enfants. Le peu que je reçois, j'essaie d'avoir cette personnalité-là, d'être indépendant vis-à-vis des gens.
Jean-Luc Essocola révèle qu'il n'a rien gagné comme bien matériel.
Sur le plan matériel, je n'ai rien, ça je vous le dis, je ne mâche pas les mots, et noir sur blanc, je le souligne, je n'ai rien bénéficié de l'enseignement.
Sa femme, Louise Moubakini, dit pour sa part qu'il est difficile de survivre uniquement avec les salaires de son mari. Elle s'est lancée dans les petits commerces pour appuyer les besoins de la famille.
Bien qu'elle soit une fille, hein? Quand nous avons un petit salaire, on s'arrange à prévoir un sac de semoule, la braise, des petites choses. Mais le salaire en question ne peut même pas arriver à Noël et début du mois. À partir du 20, presque tout est terminé. Mais on se démène quand même. Bien que c'est peu, mais les enfants sont en bonne santé. On se débrouille pour qu'ils ne puissent pas manquer à manger. Des fois, on emprunte l'argent chez les autres qui ont les moyens, vous pouvez emprunter 10 dollars, 20 dollars, hein, pour que ça puisse vous permettre la semaine qui reste, avant d'être payé. Vous pouvez chercher ailleurs, ou bien vous pouvez vous débrouiller autrement. Vous vendez même les maïs, les foufous, les petites choses, pour que les enfants ne soient pas affamés. C'est comme ça qu'on se débrouille. Il faut avoir l'esprit de créativité. En se démenant, vous pouvez acheter quelque chose, vous revendez ça, pour avoir ne fût-ce que 5 000. Et les 5 000 vont permettre aux enfants de prendre du thé, même la bouillie et toute autre chose. Bien que l'enseignant est négligé en RDC, mais ce n'est pas dit que lorsqu'un enseignant vient vous prendre en mariage, vous devez refuser. Hein? Et ce n'est pas tout enseignant qui est pauvre. Ça dépend. Les enseignants sont pauvres, mais ils ont une longue vie. Ils sont organisés. Ils font sortir leurs enfants. Hein? Ils ont les enfants, les licenciés, les gradiers, hein, leurs enfants sont bien encadrés. Les jeunes filles ne peuvent pas négliger un enseignant à cause d'un milliardaire ou bien d'un politicien. Hein. Ils doivent se marier aux enseignants.
L'une des filles de Jean-Louis Essocola, Elvin Kaja, déclare pour sa part que, très souvent, ils n'ont pas de quoi à manger. Pour ses besoins personnels, elles vendent des petits articles.
On vit très mal avec les petits salaires qu'on donne. On manque souvent même de babouches. On manque souvent les babouches. Maman part souvent au marché pour vendre nous également. On vend le jus, l'eau pour suivre vos petits salaires. Le salaire de papa s'appelle souvent la maison. L'eau et pour manger, maman se débrouille à vendre l'eau, le jus, les gaufres pour se débrouiller à manger chaque jour. On a un nombre de 6. En cas de maladie, maman, papa cherchent une solution. Mais avec les salaires, c'est impossible d'aller à l'hôpital. De voir un médecin, c'est vraiment impossible. Maman cherche un moyen, comme elle vend, elle cherche un moyen de voir peut-être un médecin. Mais c'est rare de voir un médecin avec ses petits salaires. Pourquoi on paye moins les enseignants? Pendant que les enseignants qui forment les enfants, ils forment plusieurs gens. Même les ministres, ce sont les enseignants qui les ont formés. Mais on peut payer les enseignants plus qu'on les paye moins.
Malgré son petit salaire, M. Jean-Louis Essokola ne tient pas à lâcher la craie. Il veut à tout prix enseigner jusqu'à sa mort.
Tarehe mbili mwezi wa kenda ni siku ya kurudi shuleni. Shule ya msingi ya serikali ni ya bure. Watoto wote ikiwa wanawake na wanaume lazima waende shuleni. Kwa habari zaidi tuma rentre ku 101.1.
Ceci est un message du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté en partenariat avec l'UNICEF.
Un peu partout en RDC, les syndicats et autres structures des enseignants lèvent le ton pour exiger l'amélioration de leurs salaires et la concrétisation de promesses du gouvernement. Ce mouvement intervient à 72 heures de la rentrée scolaire 2024-2025. Il met en garde le gouvernement face à une situation qui pourrait paralyser l'éducation primaire et secondaire dans tous les pays. Des détails avec vous, Stanislas Diomi.
À quelques jours de la rentrée scolaire, les enseignants des écoles conventionnées et publiques du Sud Kivu ont déclaré de boycotter la rentrée scolaire prévue ce lundi 2 septembre 2024. Ils l'ont fait savoir ce jeudi 29 août 2024 lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue à l'école primaire Matindo à Bukavu. Bien avant cela, à Kinshasa, la synergie des syndicats des enseignants avait déjà lancé un préavis de grève à la sortie de son assemblée générale ordinaire tenue le samedi 10 août à Kinshasa. Tous ces enseignants ont refusé de reprendre la craie, malgré la promesse du gouvernement congolais d'ajouter 32 dollars par enseignant, affirme le secrétaire provincial du syndicat des enseignants des écoles catholiques, Sénicat, Jacques Tchirimouami. En effet, lors de récentes négociations, le gouvernement a promis d'augmenter 32 dollars sur le salaire de chaque enseignant, alors que les enseignants exigent un salaire de 500 dollars américains pour ainsi nouer les deux bouts du mois, a-t-il déclaré lors d'une communication à la presse. Par ailleurs, il précise que les enseignants du Sud Kivu exigent également la suppression des zones salariales et dénoncent la discrimination dans le paiement de la prime des gratuités. Parmi les principales revendications avancées par les enseignants, il y a un nouveau barème salarial uniforme applicable à tous afin de garantir la qualité de l'enseignement, la suppression de la prise en charge de frais scolaires par les parents au niveau secondaire et une retraite digne pour l'ensemble des enseignants, la convocation avant la rentrée scolaire des états généraux de l'inspection générale de l'enseignement. Cette rencontre devrait permettre de traiter plusieurs questions, notamment les primes pour fonctions spécifiques et itinérantes, ainsi que la gestion de frais générés par les évaluations certificatives. L'intégration de représentants des enseignants dans les comités de gestion de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Le paiement des arriérés pour les enseignants non pris en compte, ainsi que le prime impayé des intervenants aux évaluations certificatives précédentes. Rappelons que le syndicat des enseignants du Congo, à travers sa secrétaire générale, Cécile Tshiombo, a déclaré que les travaux des bibois entre le gouvernement et les bancs syndicales s'étaient clôturés sur fond d'insatisfaction des enseignants qui sollicitent l'intervention du chef de l'État, n'ayant pas obtenu gain de cause à leur revendication des 500 dollars américains de salaire. Dossier à suivre.
Okapi, Radio Okapi.
Votre magazine Bana Okapi se poursuit et nous parlons des attentes des enseignants du gouvernement pour cette nouvelle année scolaire. À 48 heures de la prochaine rentrée scolaire, les enseignants du territoire de Kungu dans le sud Ubangi haussent le ton. Après leur assemblée générale ce mardi et dans leur déclaration en 5 points, ils exigent notamment le paiement des arriérés de 2 mois de salaire pour préparer la rentrée de leurs enfants, mais aussi la mécanisation de nouvelles unités et l'amélioration effective de leurs conditions sociales. Suivez le coordonnateur du comité interfédéral de syndicats des enseignants de Kungu, Emmanuel Bamolokola, dans cet extrait choisi par Paul Richard Malengila.
tous les enseignants du territoire de Kungu exigent ce qui suit pour que la rentrée scolaire ce 2 septembre soit effective et apaisée. 1. La prise en charge par le trésor public de 15 476 enseignants NI des bureaux gestionnaires et écoles à travers les 9 sous-divisions provinciales du territoire, car il est inconcevable pour un gouvernement d'utiliser cette catégorie d'enseignants chaque année sans les payer. 2. Améliorer les conditions de travail des enseignants par des salaires décents et dignes, $500 américains ou rien. 3. Délocaliser sous mot de dirigeance la paye des enseignants de Kungu, de l'IFOD, Bar Caritas, Boudjala Vert, la Copec Banque Lissungi ou une autre banque honnête dès la paye de septembre pour éviter des remous sociaux. 4. Exiger à la Caritas Boudjala de venir payer ipso facto nos 2 mois de salaire de vacances juillet et août pour permettre aux enseignants parents d'acheter des fournitures scolaires et envoyer leurs enfants à l'école, car nous sommes fatigués des revendications.
Mokolo mami balé, sanza ya libwa, ezali bozongi kelasi. Ete elo ya bana bakye, ezali ofele. Bana, basi, tomi bali, bonso na kelasi. Pona basango mingi, tinda rentré na 101.
Ceci est un message du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté en partenariat avec l'UNICEF.
La synergie de syndicats des enseignants du Sud Kivu dit ne pas être disposée à reprendre le chemin de l'école lundi 2 septembre prochain. La décision a été prise hier jeudi au cours de l'Assemblée générale ayant regroupé les 3 principaux syndicats, SIECO, SINECA et SINEP. Le rapporteur Marcelin Kimbumbu dans ce propos recueilli par Jean Kassami.
La synergie des syndicats des enseignants du Sud Kivu s'est réunie ce jeudi 29 août 2024 afin de suivre la restitution des conclusions des assises de la commission paritaire tenue récemment à Bibwa, à Kinshasa. Après restitution, les enseignants ont pris la décision suivante. Vu que les enseignants ne sont plus prêts à accepter les promesses irréalisables du gouvernement, à l'unanimité, les enseignants décident de rester à la maison jusqu'à ce que les engagements du gouvernement soient matérialisés, tout en exigeant l'amélioration de leur salaire. Pour les volets retraite, les enseignants soutiennent les engagements du gouvernement, notamment à apurer les litiges des enseignants de 2021-2022 dont l'effectif est estimé à 3 070. Payer les allocations de fin de carrière des enseignants retraités depuis 1984. S'agissant de la santé, les enseignants du Sud Kivu exigent la subvention de l'État à la mutuelle de santé des enseignants du Sud Kivu.
Ce n'est pas fini. L'intersyndicale des enseignants de la province éducationnelle du Congo central 1 refuse de reprendre le chemin de l'école ce lundi 2 septembre, comme annoncé par le gouvernement. Cette structure conditionne la rentrée scolaire effective par l'application sans faille du barème salarial fixé par le feu président Mobutu dans une ordonnance non abrogée jusqu'à présent. Cette décision vient d'être annoncée à l'issue d'une assemblée générale tenue ce jeudi à Matadi. La Confédération de syndicat des enseignants du Congo central dit exprimer son mécontentement face aux nombreuses promesses non tenues du gouvernement. Le point avec Nana Plurich Mambo.
À travers ces chants, l'intersyndical des enseignants du Congo central 1 désapprouve les réajustements des salaires en paye complémentaire de 50 000 francs avant la rentrée scolaire et 50 000 autres en octobre, y compris les 20 000 francs de la prime des enseignants du primaire, tel qu'a été récemment conclu en Mbuela Lodge entre les gouvernements et les banques syndicales. Cette structure conditionne la rentrée scolaire de ce 2 septembre par un salaire de $500. Joël Ngimbi est président de l'intersyndicale des enseignants du Congo central 1.
Donc nous sommes catégoriques pour dire $500 ou rien, ou pas de rentrée.
Pendant la période qui durera ce mouvement de grève, l'intersyndicale des enseignants met en garde les gestionnaires des écoles et les autorités éducationnelles contre leurs intimidations à l'endroit des enseignants.
Nous leur demandons de laisser libre les enseignants. Et celui qui a l'intention d'intimider les enseignants, il verra toute l'équipe de l'intersyndicale devant ses bureaux.
Cette assemblée générale convoquée par l'intersyndicale provinciale a réuni les enseignants et les responsables des syndicats tels que les SINECAT, les SINECO ainsi que les SILAD. Matadi, Nana Plurich Mambu, Radio Okapi.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez dans la deuxième partie de votre magazine Bana Okapi. Ce programme de Radio Okapi financé par l'UNICEF traite des sujets liés à la santé, l'environnement, la protection de l'enfant et l'éducation. Je suis Sarah Sombela à la présentation de ce numéro du magazine Bana Okapi. Pierre Diassinois assure la mise en onde. Gisèle Cage réalise ce programme de Radio Okapi financé par l'UNICEF. Ce magazine est supervisé par Jean-Marc Matweki Mofelele Dijano. Nous parlons aujourd'hui des attentes des enseignants du gouvernement pour cette nouvelle année scolaire. À 48 heures de la nouvelle rentrée scolaire, les synergies et syndicats des enseignants menacent d'aller en grève. Cette situation pourrait paralyser l'éducation primaire et secondaire dans tout le pays. Alors, qu'attendent les enseignants du gouvernement pour cette année scolaire ? Éléments de réponse dans cette deuxième partie de votre magazine Bana Okapi.
Mudito kudibidi jangondo wa chitenda ne kuikala dipingana ja tulasa. Tulasa tupwekela tuambula matadi tujichana. Bana babaka jini babaluma bonsumu tulasa. Bwangumu ya buni tumahondre kusan en.
Ceci est un message du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté en partenariat avec l'UNICEF.
Vous êtes à l'écoute de votre magazine Bana Okapi qui vous parle des attentes des enseignants du gouvernement pour cette nouvelle année scolaire. Notre reporter Grasson Vuzolo est allé à la rencontre des enseignants de Kinshasa. Ils disent attendre que l'État fasse sa part avant de revenir enseigner. On les écoute.
Nous voulons qu'on arrange les salaires. Ça ne va pas. Tout ce qu'on nous donne là, c'est vraiment insignifiant. On ne sait pas fréquenter les enfants. Même pour nous-mêmes, c'est vraiment insignifiant.
Cette année, nous attendons l'amélioration sociale. Bien que ça se dise chaque fois, on répète chaque fois, mais il n'y a aucune amélioration. Mais cette fois-ci, peut-être, si, je ne sais pas si le gouvernement sera à la hauteur de nous récompenser. Parce que c'est un rappel qu'on fait il y a longtemps. Vraiment, c'est un rappel, mais cette fois-ci, nous voulons que ça se conclue pour qu'on nous donne vraiment une amélioration salariale pour avoir un peu une bonne vie mère, c'est ça. C'est-à-dire, nous demandons, que l'État prenne ses engagements comme il nous avait toujours promis. Pour cette fois-ci, c'est ça que je demande, je répète, si peut-être il va réaliser cette fois-ci, ça va. Parce qu'il y avait tant de promesses, nous avons beaucoup attendu, longuement attendu, mais ça ne se réalise pas. On nous avait promis d'abord au mois d'avril, dans le mois d'avril, il n'y avait rien, au mois de juillet, il n'y avait rien, bon. Bon, on nous dit maintenant cette fois-ci que ce sera au mois d'octobre. Et ça sera l'ajoute. Quel ajoute, qu'est-ce qu'on va donner, qu'est-ce qu'on va ajouter? Vraiment, jusque-là, en tout cas, on dit que ça ne tient pas. Pour les salaires, ça ne tient pas.
Nous attendons que l'État puisse résoudre les problèmes tels qu'on a posés dans les cahiers de revendication et concrétiser, réaliser aussi ses promesses. Parce que trop souvent, on voit que l'État ne réalise pas. On peut tirer des conclusions, on est à Bibwa, on a été par-ci, par-là, et même les problèmes des retraités, on peut retraiter l'enseignant comme s'il était un étranger sans suivre la procédure. Tout ça a été coulé dans les cahiers des revendications. J'espère que la volonté politique fera en sorte qu'il puisse assurer, parce que si ça capotait, ce n'est pas l'enseignant, c'est de l'autre côté, parce que plusieurs rencontres, des fois on trouve que les résultats sur le terrain sont maigres. Les enseignants sont prêts, mais que l'État fasse sa part. La bouche autorisée, les syndicalistes ont déposé leur cahier des charges et les attendent. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore une rencontre, on attend qu'on puisse nous restituer quoi.
Na kilumba zulango na uvake kwiza, malungi abana kivutuka. Nzonkana nyuso malongi ya nteta mbola matadi ya kila mpamba. Banda bankento mpia babakala, beno nyuso na nzonkanda. Samra bantangu nyuso, tinda rentre na sain.
Ceci est un message du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté en partenariat avec l'UNICEF.
Notre premier invité est Serge Bondédé, coordonnateur de l'ONG Imaye, spécialisé dans les questions d'éducation et des jeunes qui luttent contre la commercialisation de l'éducation, d'où leur slogan « École les âmes ont bon goûté ». Pour lui, les réalités des enseignants sur terrain montrent qu'ils vivent dans une misère indescriptible. Serge Bondédé est au micro de Stanislas Diomi.
Monsieur Serge Bondédé, bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, Bana Okapi traite le sujet sur la rentrée de classe. Qu'attendent les enseignants du gouvernement pour cette nouvelle année scolaire ?
les enseignants qui sont aussi partenaires éducatifs comme nous, donc avec qui nous interagissons sur les questions éducatives, ce qu'ils attendent du gouvernement, ça se résume en une seule phrase, c'est celle de l'amélioration des conditions socio-professionnelles. Parce que nous sommes sur terrain, nous descendons sur terrain, ils vivent dans une misère indescriptible, ils sont dans une souffrance qui ne dit pas son nom, ils ont des difficultés vraiment qui touchent au niveau des vies minimums telles que consacrées, garanties par les instruments internationaux dont le droit au développement. Voilà pourquoi ils demandent au gouvernement d'accroître ou d'augmenter leur salaire avec une moyenne de $500 équivalent à 1 500 000 francs. Voilà ce qu'ils demandaient au gouvernement.
Et quelle chance donnez-vous à cette année scolaire par rapport aux différentes revendications des enseignants, surtout pour leur salaire et l'amélioration des conditions socio-professionnelles? Y a-t-il un avenir?
Bon, on a suivi la fin de travaux de la commission paritaire à Bibois. On a lu le compte rendu, nous respectons ce compte rendu, notamment livré par le gouvernement, par le ministère de la fonction publique et le discours des syndicalistes. Mais ce que on ressent, c'est en fait des positions d'hypocrisie, parce que côté gouvernement, il parle d'un arrangement républicain. Côté syndicaliste, et disent qu'ils attendent du gouvernement le 1 500 000 francs parce que au lendemain de cette cérémonie, on a documenté pas mal de sorties médiatiques qui vont un peu à l'encontre d'un attendement ou d'un atterrissement à l'amiable. Ça inquiète, et ce que nous pouvons souhaiter, nous défendons la primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant, nous appelons les uns et les autres à fournir les efforts essentiel qui va permettre à ce que l'enfant trouve son compte. Et pour que l'enfant trouve son compte, il faut que celui qui l'enseigne soit dans de bonnes conditions. Pour que l'enfant trouve son compte, il faut que celui qui l'enseigne soit outillé, soit formé et soit motivé.
Avez-vous suivi les discours du VPM Liaou qui estime que la revendication des enseignants était irréaliste car la somme issue de la multiplication de ce montant est supérieure même à l'enveloppe salariale des agents et fonctionnaires de l'État? Quelle est votre réaction?
Je crois que la sortie médiatique du VPM était contre-productive, ça c'est de un, et de deux, ça manquait d'une dose politique pour une personnalité politique et un membre du gouvernement de sa trempe. Et ce qui révolte, c'est lorsque il s'agit des enseignants qu'on parle d'un arrangement républicain. Mais lorsqu'il s'agit du train de vie des institutions, nous ne suivons pas cette même rhétorique-là. C'est ce qui crée c'est ce qui renforce les inégalités et qui installe un climat de révolte. Et si nous savons que les enseignants, pour la plupart des cas, sont, permettez-moi les termes, un peu mous, pas assez électriques pour assez revendiquer, mais dis-moi, ça c'est là. Provoque un sentiment de répit. Voilà pourquoi, bon, vous savez, les gens peuvent être dans la République de la Gombe en train de penser, imaginer des choses, mais ceux qui font l'intérieur du pays savent voir comment est-ce que l'enfant est presque abandonné. Les enseignants, pour la plupart des cas, ne sont plus motivés. Ils entrent dans une salle, peut-être il y a que 3 à 4 heures de leçons et les autres, c'est un abandon total. Les programmes ne sont plus totalement consommés. C'est là parce que aussi les enseignants sont démotivés. Donc moi je pense, nous pensons que le propos du PM devait être beaucoup plus rassurant. Le président de l'Assemblée, du Sénat, le membre du gouvernement touche et de très loin à ce que touche un enseignant et nous pensons même les chauffeurs de membres du gouvernement ne seront pas vivre avec les montants que vivent les enseignants pendant un mois.
Avec la sortie médiatique du VPM Liaou et les revendications des enseignants, les parents craignent déjà que l'on puisse assister à un mouvement de grève tout au début de cette année scolaire ou de la rentrée de classe. Qu'est-ce que vous pouvez suggérer?
Bon, effectivement, il y a lieu de craindre. Hein. Il y a lieu de craindre parce que de part et d'autre, on sent des positions pleines d'hypocrisie côté gouvernement qui
promet aux enseignants 100 000 francs par mode de paiement complémentaire. Alors, ces références d'expérience du passé, vous avez notamment tous ces paiements qui passent par par MAD, avec les cas de la prime sur la gratuité, qui devrait atteindre le barème de 80 000 francs, mais jusque là, ce n'est pas le cas parce que ça bloque. Et promettre aux enseignants le complément de 100 000 francs dans les salaires par voie de MAD, donc mise à disposition des fonds, ne rassure pas les enseignants. Et côté ces bancs syndicales, c'est référent à ces comportements de finances publiques du gouvernement et aussi, en tout cas pour la plupart que nous sommes en train de suivre et de documenter des réactions, ils n'accordent pas de chance à cette promesse et disent, voire même, que leur demande revendication était à 1 500 000 et 100 000 francs, c'est vraiment presque rien. Bon, c'est que nous, on peut que souhaiter et que les dialogues continuent, par quel format, on ne sait pas, et les efforts palpables aussi soient consentis et soient menés pour rassurer les uns les autres. Je crois que pour les parents, on ne peut que encourager au dialogue et voir comment est-ce que les choses vont pouvoir évoluer.
Face à ce problème qui se pointe à l'horizon, avec l'ONG IMAE, quelles sont les activités que vous planifiez justement pour essayer de combattre certaines antivaleurs?
Oui, nous, à notre niveau, on a toujours fait voir au gouvernement que la préparation d'une rentrée scolaire a des angles. Vous avez le premier angle sur le dialogue social avec le prestataire, donc les enseignants, et deuxième angle, c'est contenir les effets et plutôt l'effet de marchandisation qui étrangle aussi l'accès des enfants à l'école. Et c'est pour cette raison que dans le cas de la campagne, nous lançons toujours l'opération de sensibilisation et de récolte des données et de mobilisation des communautés pendant la rentrée pour pouvoir lutter contre la marchandisation de l'éducation qui se manifeste par huit faits. Vous avez la vente par contrainte des uniformes, le paiement des encomptes, le paiement des visites étrangères et tout ça. Alors, on avait déjà lancé ça, on a lancé ça dans la ville de Boindé, dans la province de la Chuapa. On a donné un accent sur le vulnérable de l'éducation. Il s'agit donc ici des enfants vivant avec handicap et les enfants issus de peuples autochtones. Et on a introduit le plaidoyer au gouvernement. Malheureusement, jusque-là, le gouvernement n'a même pas encore acquis réception. Et concernant les actes de marchandisation, on avait fait pression pour que le gouvernement puisse rendre public ce qui s'est fait déjà depuis 4 ans, ce qu'on a toujours plaidé. Mais cette année, ça a tardé. On a fait le plaidoyer et on a fait la pression. Il y a eu la publication des dispositions pratiques. Et nous avons commencé les descentes sur le terrain. On en a fait à Kikwiti, on en a fait à Bwende, on en a fait à Kasumbalesa, on en a fait à Uvira, on en a fait à Fizi. On en a fait à Kinshasa Funa, on en a fait à Kindu, on continue, à Kananga et dans les environs, ça continue. Mais fort dommage de constater que l'État lui-même est absent sur terrain.
Après vos différentes descentes sur terrain, vous avez remarqué que l'État est tellement absent et les écoles se comportent en électron libre. Quelles sont les recommandations que vous pouvez formuler à l'État?
Ce que nous recommandons à l'État, c'est d'agir dans ses rôles et fonctions. Les rôles de l'État, pouvoir organisateur, et fonction des régulateurs, et celui qui conduit les politiques nationales en matière d'enseignement et de l'éducation. Ici, pour contenir la marchandisation, il y a nous, IMAE, qui sommes actifs en matière de la lutte contre la marchandisation. Il y a l'ASSO qui regroupe les écoles privées agréées. Il y a les parents qui ont leurs multiples associations des parents. Mais comment est-ce que jusque-là, il n'y a aucune task force qui fait unir les moyens parce que l'État est absent. Nous, on a les données, nous récoltons les données et parfois, les parents ne s'intéressent plus au rôle de l'État parce qu'ils les disent, même si vous sensibilisez, l'État ne fera rien. Ça, c'est ce que disent les parents. Alors, l'État qui associe les partenaires. Il y a Assonepa qui exprime les inquiétudes en termes de compréhension, d'attendement sur les dispositions. Il faut que nous ayons un attendement commun. C'est à l'État, c'est au ministère de mettre autour d'une table tous, donc nous tous les partenaires, pour suivre de près cette situation, avoir un attendement commun et nous puissions faire la marche ensemble. Mais cette manière où on laisse se faire pourrir les choses, ça inquiète et ça fait aggraver des constats malheureux sur terrain.
Monsieur Serge Bondedi, nous vous disons merci d'avoir répondu à toutes nos questions.
C'est à moi de vous remercier.
Le président de parents de Kinshasa, M. David Diatezoa, président de l'Association nationale des parents d'élèves et étudiants du Congo, à Napiko, pense que les enseignants ont le droit de revendiquer les conditions salariales décentes. Il plaide également auprès de l'État congolais de revoir la machine sécuritaire pour permettre aux parents des enfants de l'Est du pays de retrouver les chemins de l'école. Il est au micro de Stanislas Diomi.
Bonjour Monsieur David.
Bonjour monsieur le journaliste.
Alors monsieur David, en tant que président national des parents, la rentrée scolaire c'est déjà pour le 2 septembre, c'est-à-dire le lundi prochain. Il y a des enseignants qui revendiquent certains droits de la part du gouvernement. Qu'est-ce que vous pensez par rapport aux revendications des enseignants?
Ben les enseignants ont raison de revendiquer pour avoir des conditions salariales décentes. Mais il n'y a pas que les enseignants, c'est tous ceux qui travaillent, tous ceux qui vont au travail devraient être bien rémunérés parce qu'il n'y a pas de sots métiers, il n'y a que des sots gens.
Par rapport aux revendications des enseignants, ils exigent au gouvernement $500 pour leur salaire, alors que jusque-là le gouvernement leur promet d'ajouter $32 à leur salaire initial. Comment vous, en tant que président de parents, vous êtes en train de concevoir ces problèmes qui sont en train de dégénérer au risque même que nous puissions assister à de grèves tout au début de l'année?
Bon, moi, je n'ai pas été aux négociations des bibois entre le banc gouvernemental et le banc syndical. Je ne connais pas très bien les tenants et les aboutissants de ces négociations. Mais j'ai constaté que à la fin, il me semble qu'ils se sont mis d'accord pour que la rentrée scolaire puisse avoir lieu, mais que les besoins insatisfaits puissent être examinés par directement par le président de la République qui prendrait la décision pour rencontrer leurs aspirations. Maintenant, qu'est-ce qu'ils se sont exactement dit? Quelles sont les avancées? Généralement, la NAPECO est associée à ces types de négociations et dans la mesure du possible, nous avons toujours apporté notre contribution pour faire avancer les choses. Maintenant que nous n'avons pas été associés, en tout cas, je ne suis pas en mesure de commenter des choses auxquelles je n'ai pas pris part.
Vous avez un mot adressé aux parents par rapport à cette rentrée, parce que certains parents sont un peu frustrés. Qu'est-ce que vous pouvez leur garantir?
Bon, de prime abord, nous voulons faire savoir que pour nous parents, les travailleurs et leurs employeurs doivent se mettre d'accord pour la reprise du travail le 2 septembre dans les écoles. Et que donc, nous savons que pour nous parents, notre devoir, c'est de payer les frais de scolarité, c'est de payer les fournitures uniformes et d'envoyer nos enfants décemment à l'école. C'est ce que nous ferons. Le 2 septembre, nous mobilisons les parents pour envoyer les enfants à l'école et nous profitons de ce que le gouvernement n'exige pas comme condition préalable que les parents aient payé tous les frais. On peut payer des acomptes où ceux qui ont le moins peuvent payer en totalité, mais nous encourageons les parents qui ont payé, eux qui vont payer les acomptes, d'envoyer tous les enfants à l'école. Deuxièmement, maintenant, croyant en la bonne foi des uns et des autres sur les promesses ou les acquis, et nous demandons aux enseignants qui sont aussi parents de recevoir nos enfants à l'école et de bien les traiter pour leur donner les enseignements requis. Voilà notre petite contribution à cette affaire.
Avez-vous un dernier mot à adresser aux enfants qui reprennent déjà le cours déjà ce lundi?
Nous sommes vraiment de cœur avec nos enfants, avec les parents qui font des miracles pour envoyer les enfants à l'école et payer les frais de scolarité et même payer les frais d'appui aux enseignants. N'oubliez pas que nous parents, nous payons des frais d'appui aux enseignants, lesquels frais sont d'ailleurs plus élevés que la rémunération que l'État paye aux enseignants. Donc nous félicitons les parents pour cela, même si s'ils nous en coûtent. Mais nous demandons aussi maintenant aux enseignants de ce que, eux aussi étant parents, eux étant soutenus par les parents dans les appuis que nous donnons, et qu'ils nous renvoient l'ascenseur pour que on ne puisse pas sanctionner les parents et les enfants, qu'ils y aillent continuer le dialogue social avec l'employeur.
Et au niveau de la NAPECO, qu'est-ce que vous faites pour les enfants qui sont dans des zones où il y a d'insécurité? Est-ce que vous avez un mécanisme de sensibilisation que vous avez mis sur pied pour voir dans quelles conditions on peut récupérer ces enfants dans les écoles?
Monsieur le journaliste, là il s'agit des aspects hautement politiques et sécuritaires. Nous n'avons pas la même mise sur l'appareil sécuritaire du pays. Okay. Tout ce que nous faisons, c'est un plaidoyer auprès du gouvernement pour sécuriser les enfants, sécuriser les parents qui ont déjà payé un très lourd tribut, parce que vous savez que dans les millions de Congolais qui sont décimés depuis que la guerre a commencé à l'Est, mais ce sont les parents, ce sont les membres de nos familles qui sont partis. Et nous demandons donc que le gouvernement puisse mettre la sécurité et qu'on puisse enrayer ce phénomène de la guerre persistante et récurrente dans notre pays. C'est possible lorsque la volonté politique y est.
Monsieur David, nous vous disons merci d'avoir répondu à nos questions.
C'est moi qui vous remercie au nom des parents.
Le 2 septembre, c'est la rentrée scolaire. L'école primaire publique est gratuite. Enfants, filles et garçons, tous à l'école. Pour plus d'infos, envoyez rentrer au 101.
Ceci est un message du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté en partenariat avec l'UNICEF.
Nous recevons cette fois-ci Jean Bosco Puna, secrétaire général du SINECAT, syndicat des enseignants des écoles catholiques. Pour lui, les enseignants espèrent du gouvernement plusieurs choses, mais la plus urgente, c'est l'élaboration par le gouvernement de la politique salariale. Jean Bosco Puna est joint par Stanislas Diomi.
Monsieur Jean Bosco Puna, bonjour.
Oui, bonjour.
Aujourd'hui, Bana Okapi parle de la rentrée de classe. Qu'entendent les enseignants du gouvernement pour cette année?
Bon, les enseignants attendent beaucoup de choses, mais ce qui est plus urgent et ce qui est plus important, c'est l'élaboration par le gouvernement d'une politique salariale. Vous savez que les enseignants travaillent et pendant de longues décennies, pendant beaucoup de décennies, sans que nous n'ayons une politique salariale. Et donc nous travaillons dans la précarité. L'enseignant, quand il est actif, il vit dans la précarité, mais même quand il devient passif, c'est-à-dire quand il doit aller en retraite, les problèmes continuent à se poser. Donc pour nous, il est urgent pour le gouvernement de pouvoir élaborer une politique salariale, parce que n'oubliez pas que la politique salariale a l'avantage de pouvoir résoudre les problèmes dans une approche progressive. Et nous avons salué lorsque le chef de l'État a compris qu'il était temps qu'on puisse mettre en place cette politique salariale. Nous attendons que le gouvernement puisse convoquer les assises avec les vrais partenaires sociaux afin de pouvoir élaborer cette politique salariale et sécuriser la carrière des enseignants. La politique salariale pourra résoudre les problèmes du barème uniformisé. Vous savez qu'il y a des enseignants qui souffrent de ce qu'on appelle zone salariale, notamment près de 80% d'enseignants qui sont dans l'arrière-pays. Et donc, si nous avons une politique salariale, on va résoudre ces problèmes de zone salariale. On va également résoudre les problèmes de la fluctuation monétaire, parce que la politique salariale peut avoir l'avantage de pouvoir indexer les salaires. En cas de fluctuation, il y a moyen de manière automatique de pouvoir indexer les salaires des enseignants pour qu'il n'y ait pas toujours de remous. Et également, il y a les problèmes de la répartition équitable du revenu, c'est-à-dire on va baser cette politique salariale sur les principes constitutionnels d'équité. Au lieu que vous ayez une catégorie avec des primes pharaoniques, et on va devoir niveler ces primes, équilibrer pour que tout le monde puisse avoir quelque chose, parce que l'enseignant qui travaille a besoin de pouvoir vivre décemment. Vous savez que l'enseignant a des enfants scolarisés, il doit prendre en charge les soins de santé de ses enfants, il a un loyer à payer parce qu'il est éternel locataire. Voilà autant de problèmes que seule la politique salariale peut devoir résoudre.
Vous venez d'invoquer le problème de la politique salariale, mais le VPM Liaou venait de faire une sortie médiatique par rapport au salaire des enseignants et les différentes revendications des enseignants. Comment vous pouvez réagir?
La politique salariale va devoir concerner tout le monde, c'est-à-dire tous les agents et fonctionnaires de l'État. Il est vrai que lorsque le ministre de VPM Liaou parle, il vient sur la commission paritaire sectorielle de l'éducation nationale. Or, aujourd'hui, les problèmes se posent à tous les niveaux. Donc, le fonctionnaire a besoin de pouvoir envoyer son enfant à l'école et il a besoin d'avoir un minimum. Donc, nous pensons, à notre point de vue, que c'est la politique salariale qui peut donner toutes les réponses aux différents problèmes qui se posent dans le secteur de l'enseignement et au niveau de l'administration publique en général. Le VPM a clôturé les travaux de la commission paritaire, mais sans donner de vraies réponses aux problèmes qui sont posés dans les cahiers des charges des enseignants. Et ça, ça crée de véritables remous dans les milieux des enseignants. Et nous irons en consultation en Assemblée générale le 30 août. Nous allons échanger avec les enseignants pour voir, par rapport aux promesses que le gouvernement vient de faire une fois de plus, s'il y aura moyen de pouvoir commencer l'année. Voilà donc ce que les enseignants exigent. Parce que pour nous, il est clair, il faut absolument que nous ayons une rentrée avec un fond, pas une rentrée pure forme. Parce que si nous avons une rentrée, les enseignants vont avec un cœur à l'ouvrage. Et ça va permettre que nous puissions faire le travail, un travail de qualité sur le terrain. Mais pour l'heure, je crois que ce n'est pas encore au rendez-vous.
Oui, c'est parce que les enseignants ont réclamé que leur salaire soit de 500 $. Et le vice-premier ministre Liaou a dit dans son discours qu'il est difficile qu'on puisse servir les enseignants 500 $ par rapport à l'enveloppe salariale. Et plusieurs syndicalistes déjà menacent à nouveau de faire la grève suite à ces propos. Comment éviter la grève en cette rentrée de classe?
Bon, la grève, vous savez, les pouvoirs organisateurs de l'enseignement national, c'est le gouvernement. Moi, je crois que lorsque les enseignants exigent 500 $ pour l'enseignant moyen, ça rentre effectivement dans la politique salariale. Mais 500 $ pour quelqu'un qui travaille, vous savez, si nous avons une politique salariale, nous aurons ce qu'on appelle le bandelette de paye, le bulletin de paye. Et là, voir éclater les différentes rubriques, le logement et les soins de santé, la base. Aujourd'hui, ce qui est payé, c'est véritablement un forfait. Donc, si l'on exige que le gouvernement puisse payer à l'enseignant un minimum de 500 $, ça rentre dans la politique salariale. Mais maintenant, en contrepartie, qu'est-ce que le gouvernement propose? Parce que nous avons besoin de voir la bonne volonté du gouvernement. Si les enseignants demandent 500 $, qu'est-ce que le gouvernement a proposé? Jusqu'à aujourd'hui, rien. Parce que le gouvernement, une fois de plus, est allé dans une promesse où on pourrait donner, je crois, plus ou moins 15 $ au mois de septembre et puis 50 000 francs au mois de janvier 2025. Je crois que c'est ce qui irrite les enseignants. Et lorsque le VPM revient pour dire que les 500 $ que les enseignants ont demandé, c'est exorbitant, c'est ce qui dérange dans les milieux des enseignants. Nous aurions aimé que le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique puisse emboîter les pas par rapport à la proposition du président de la République qui veut que l'on puisse convoquer les travaux de la commission sur la politique salariale. Parce que comme je venais de le dire, la politique salariale a l'avantage de pouvoir résoudre les problèmes dans une approche progressive. Et c'est ce que nous attendons. Parce que nous ne voulons pas que les enseignants aillent faire de la figuration dans les salles de classe. Il faut absolument que nous ayons aujourd'hui un contenu de cette gratuité qui est au primaire, mais aussi au niveau secondaire, que les enseignants puissent véritablement travailler pour que notre jeunesse puisse être compétitive.
Et par rapport aux arrangements qui a eu lieu récemment à Biboua entre le gouvernement et les syndicats des enseignants que vous avez épinglé tout à l'heure, quel avenir pouvons-nous donner à cette réunion, à ces arrangements?
Bon, vous savez que le gouvernement convoque une commission paritaire et il ne respecte pas les règles. Vous comprenez que pour convoquer une commission paritaire, la première chose, c'est qu'il faut qu'il y ait l'inclusivité. Or, comme vous le savez, la synergie a été discriminée de ces travaux. Deuxième chose, il faut que nous sachions la qualité des participants. Aujourd'hui, il est clair que cette commission paritaire des Bibois a accouché d'une souris, dans la mesure où les participants qui étaient près de 500 participants à Bibois, mais vous allez trouver avec 80% des membres du gouvernement. Et donc, il y avait plus ou moins 20% du banc syndical. Dans ces conditions-là, il est difficile de pouvoir dégager un réel consensus. Il y a également ce qu'on appelle les termes de référence, les termes de base sur base desquels on va devoir discuter. Tout ça n'avait pas été prévu au préalable et voilà pourquoi cette commission paritaire n'a pas apporté de vraies réponses aux problèmes des enseignants. Certes, on a clôturé les travaux, mais il est vrai que même ceux qui nous ont représentés là-bas n'ont pas été satisfaits parce qu'au sortir, ils ont dit qu'ils ne sont pas satisfaits et nous tous, nous savons que le gouvernement n'a pas répondu aux revendications des enseignants. Parce que la promesse qui est faite, c'est une promesse qui avait été faite depuis Tony Mwamba, depuis donc une année et ça n'avait jamais été appliqué. Aujourd'hui, le gouvernement pense reconduire cette promesse-là et donc vous voyez dans ces conditions-là, il est difficile de faire le travail. Parce que l'enseignant doit retourner son enfant à l'école le 2 septembre, mais qu'est-ce qu'il va laisser? Comment il va scolariser les enfants? Comment il va devoir les soigner? Donc, autant de problèmes dans les chefs des enseignants, nous pensons qu'il est temps de pouvoir rendre l'ascenseur à celui qui a formé tout le monde. On ne peut pas continuer à nous dire que l'enseignant ne peut pas gagner 500 $. Je crois qu'à la limite, c'est une insulte. L'enseignant qui forme tout le monde a besoin de meilleures conditions de vie et de travail. Et je crois qu'au deuxième mandat du chef de l'État, il a fait la promesse qu'on ne va plus revenir sur les erreurs du passé. Et nous pensons que si le chef de l'État prenait cette question à bras le corps, on va véritablement mettre en place une politique salariale. Et nous, en tant que force sociale, en tant que partenaire, nous allons comprendre les difficultés du gouvernement et nous irons dans une approche progressive pour qu'on puisse donner ce qu'il faut à l'enseignant de telle manière qu'il fasse le travail. Sinon, ça sera toujours un sous-enseignement et ce n'est pas bon pour les syndicats que nous sommes, les syndicats responsables.
En tant que syndicaliste, qu'est-ce que vous pouvez garantir aux parents qui, déjà à partir de lundi, vont envoyer leurs enfants à l'école et qu'est-ce que vous pouvez aussi dire à l'État et aux enseignants?
Bon, aux parents, ils doivent savoir qu'ils ont un syndicat des parents, les associations des parents, qui ont presque démissionné. Le moment est venu pour pouvoir activer toutes ces cellules qui ont la charge de pouvoir défendre les parents. En fait, les parents, le souci c'est quoi? C'est que l'enfant puisse se retrouver dans une salle de classe. Mais nous, l'autre souci c'est quoi? C'est que l'enfant se retrouve dans la salle de classe, mais il doit véritablement être enseigné, c'est-à-dire acquérir des compétences. Si l'enfant n'acquiert pas de compétences, vous voyez ce que nous vivons aujourd'hui, les pays qui nous environnent et qui envient la République démocratique du Congo. Nous avons donc besoin d'une jeunesse qui puisse être capable de relever les défis demain. Donc les parents doivent comprendre que s'il y a un conflit entre les enseignants et le gouvernement, eh bien nous tous, nous allons attendre. Nous allons attendre que le gouvernement, qui est le pouvoir organisateur de l'enseignement national, donne des solutions aux problèmes qui sont posés. La gratuité est là, mais figurez-vous que la gratuité aujourd'hui pose beaucoup de problèmes. Parce que l'enseignant en primaire, en lieu et place qu'on lui donne les 80 000 francs qui figurent sur le listing des payes, il a 60 000 francs et on ne veut pas qu'il puisse poser les problèmes. L'enseignant du primaire demande un vrai salaire, un barème, un nouveau barème. Eh bien, le VPM Liaou dit que 500 $, on ne peut pas donner ça à l'enseignant. Donc, autant de problèmes qui font que c'est vraiment difficile. Nous avons également une épineuse question liée aux évaluations. Vous savez que les inspecteurs qui ont le devoir de former, de contrôler et d'évaluer, eh bien, ils sont logés à la 45e boutonnière. Et donc, c'est compliqué pour que le travail de qualité se fasse sur le terrain. Les parents ont besoin d'un enseignement de qualité. Je crois que, autant pour le gouvernement, nous demandons au gouvernement qu'on se mette autour d'une table pour que nous voyons quelles sont les possibilités que le gouvernement a, parce que jusqu'aujourd'hui, rien n'a été donné à l'enseignant, figurez-vous. Donc, nous avons besoin que le gouvernement convoque les travaux sur la politique salariale. C'est l'unique voie de sortie pour le gouvernement et pour nous tous. Si ces travaux sont convoqués, nous verrons est-ce que le gouvernement est capable de donner les $500 aux derniers enseignants. Voilà l'avantage de la politique salariale. Donc, pour nous, il est clair que pour résoudre les problèmes de manière durable, c'est la convocation des travaux sur la politique salariale. On peut tout faire. Nous savons que dès septembre, on ira visiter le lycée Bossangani, on ira visiter Boboto, on ira visiter le collège Alpha Giri pour dire que non, les enfants sont à l'école. Mais ce n'est pas ça le plus essentiel. L'essentiel, c'est de donner un contenu au travail du maître. Et pour donner un contenu au travail du maître, il faut le motiver. Motivation passe par un barème salarial qui résulte d'une politique salariale. Et en ce moment-là, je crois que les uns et les autres seront sécurisés.
Monsieur Jean Bosco, nous vous disons merci d'avoir répondu à toutes nos questions.
C'est moi qui vous remercie.
Cet entretien de notre dernier invité marque la fin de ce numéro de votre magazine Bana Okapi sur Radio Okapi. Je suis Sarah Soumbela, la présentation de ce numéro du magazine Bana Okapi, mise en onde par Pierre Diassinois. Gisèle Cage a réalisé ce programme de Radio Okapi, financé par l'UNICEF. Une émission coproduite par Plamidimbi Avanga, grâce au Vezolo, Rachel Kessé, Ezekiel Mouzalia, André Kitenge, Grévis Salomou, Guylaine Kassassia et Stanislas Diomi. Ce magazine est supervisé par Jean-Marc Matokimo-Felele, Dijano. Pour rappel, nous nous sommes intéressés aux attentes des enseignants pour cette nouvelle année scolaire 2024-2025. À 48 heures de la prochaine rentrée scolaire, les synergies et syndicats des enseignants menacent d'aller en grève. Cette situation pourrait paralyser l'éducation primaire et secondaire dans tous les pays. Vous pouvez réécouter ce magazine sur le site de Radio Okapi, www.radiookapi.net ou sur la page Facebook Bana Okapi. Pour la suite de programme, sachez qu'à 17h, vous suivrez le bulletin d'information dans l'antenne Soir. Antenne qui sera animée par Christelle Fréti. L'équipe de Bana Okapi vous fixe rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de votre magazine Bana Okapi sur la fréquence de la paix. Bon week-end à tous.